cuisine, mercredi 11 octobre. Bonjour tout le monde en cette fraîche, enfin, journée d'automne. En tout cas, moi, ça me fait du bien.
Oui.
Bonjour Daniel Lachance.
Bonjour.
Bonjour Serge Bradet.
Allô, allô.
Et moi-même, Isabelle Falardeau. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'études universitaires chez les Autochtones. Et de quoi je voulais vous parler aussi? J'avais un sujet très intéressant. Ah oui, un documentaire sur un festival de musique qui se passe à Ouachap-Mayotenam, je crois. Je l'ai lu deux fois, puis déjà j'ai oublié, mais je vous en parle tout à l'heure.
On va écouter ça avec attention.
Et vous, Daniel, vous aussi, évidemment, je pige un peu dans vos... Je piétine un peu vos plates-bandes musicales.
C'est ce que j'allais dire, mais c'est pas grave.
Je vais y aller avec l'aspect humain.
Je vais écouter, je vais apprendre. Je vais vous parler d'un sujet assez spécial ce matin. La musique.
La musique,
pas, c'est quoi?
C'est
hein?
quoi? C'est quand tu n'as pas de
musique. Je vous dirai tantôt. C'est un sujet que je connaissais pas d'ailleurs et ça m'a frappé. Et aussi, je vais vous parler d'une chanteuse très connue au Québec dont le répertoire est maintenant disponible sur iTunes et Apple Music.
Je pense que je sais c'est qui. Et si oui, je vais dire enfin.
Et oui.
Et vous, Serge?
Une belle incursion dans le passé.
J'espère.
Les catalogues.
Les
catalogues de Eaton, Sears, Dupuis,
etc.
Donc,
un peu historique, les premiers catalogues.
Oui, c'est un article de Les Capots Diamants, été 2002. Le catalogue d'hier et le marketing d'aujourd'hui. Et un autre sur un magasin général à Lens à Beaufils qui a ouvert en 2001 et qui est comme un magasin général de l'époque des années 20-30.
Donc, une thématique de magasinage.
Oui, exactement.
Excellent, merci beaucoup. Alors, je vais commencer tout de suite avec les études. Alors, c'est un article que j'ai pris sur le site de Radio-Canada, publié le 2 octobre, « La médecine et le droit à la portée d'étudiants autochtones ». Grâce à une initiative de 4 universités du Québec, une trentaine d'Autochtones grossiront les rangs de la profession médicale au cours des prochaines années. Ces nouveaux médecins ont pu bénéficier d'un accès privilégié au doctorat en médecine grâce au programme de formation de médecins des Premières Nations et des Inuits du Québec. C'est un texte de Geneviève Proux. Chaque année, et ce depuis 10 ans, un total de 4 places sont réservées aux étudiants des Premières Nations et aux Inuits dans les facultés de médecine du Québec. Ces étudiants n'ont donc pas à passer au travers du processus de sélection habituel, ce qu'on appelle le contingent régulier. Ce programme n'est toutefois pas un laissez-passer pour tous les Autochtones qui ont un jour rêvé de porter un stéthoscope au cou. Les prérequis, les cours qu'ils doivent avoir faits au cégep sont essentiellement les mêmes que pour ceux qui appliquent de façon régulière. Le processus d'admission est aussi semblable. Par contre, il y a une entrevue supplémentaire avec un comité où siègent des Autochtones et ils doivent faire une note autobiographique. C'est pour valider le lien avec sa communauté et voir son intention de faire un retour de service. C'est la doyenne associée au campus de Saguenay de l'Université de Sherbrooke, la docteure Sharon Hatcher, qui nous l'explique. Il y a une cote R minimale de 28 que les étudiants doivent avoir. Ce n'est pas un programme à rabais. C'est un accès et un soutien particulier qu'ils ont. Avant, il y a 10 ans, il n'y avait pas de médecins autochtones qui graduaient au Québec. Bientôt, il y en aura une trentaine qui vont pratiquer. C'est remarquable. À l'Université de Sherbrooke, justement, on retrouve actuellement 10 étudiants issus des communautés autochtones qui ont bénéficié de ce programme. Les premiers médecins autochtones qui y ont été formés commenceront officiellement à travailler à l'été 2018. Ces derniers, qui ont choisi la médecine familiale, ont le désir de soigner les membres de leur communauté. Au nombre de ces futurs médecins autochtones, il y a Annick Bérard-Giasson, une autochtone de la communauté de Kanawake, qui a toutefois grandi à Montréal, qui vient tout juste de commencer sa résidence en anesthésie. Ce que j'aime dans le programme d'anesthésie, c'est la partie douleur chronique. Il y en a beaucoup et partout. J'ai fait des stages dans le Nord et j'ai aimé comment on y travaillait, tout ça avec moins de ressources. Aussi, il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui vont dans le Nord. Mon but, c'est vraiment d'aller pratiquer dans le Nord. Le programme n'a pas nécessairement été mis en place pour que les étudiants des Premières Nations retournent obligatoirement dans leur communauté, une fois le diplôme en poche. Ce qu'on veut, c'est créer un leadership. L'exemple bien connu de Stanley Volant, qui est un mentor pour plusieurs, vit et pratique à Montréal, mais il s'est dévoué de toutes sortes de façons à être un modèle, à visiter les communautés. Ses projets ne sont pas nécessairement purement des soins, ont inspiré toute une génération de jeunes. Ça, c'est tellement vrai. Évidemment, c'est sûr qu'il y a un besoin criant de médecins dans les communautés des Premières Nations, j'imagine, puisqu'il y en a un besoin criant, ne serait-ce qu'à Montréal. Donc, ça doit être la même chose et encore pire en région. Mais le fait d'avoir des modèles aussi, ça, c'est important pour les jeunes. Alors, c'est vraiment à l'université que j'ai pris conscience de mon rôle, de ce que je pouvais faire dans la communauté. Mon but, c'est vraiment d'aider et de soigner les gens. C'est pour ça que mes stages sont en milieu autochtone, ce qui m'a vraiment aidée à mieux comprendre leurs besoins. C'est encore Annick Bérard-Giasson qui nous dit ça. Chaque année, les facultés de médecine de la province accueillent 800 nouveaux étudiants dans leur classe. Les 4 places réservées aux Autochtones peuvent paraître bien minces en comparaison. Ces étudiants représentent 0,5% de l'ensemble. Nous avons 1% de la population qui est autochtone au Québec. On n'est quand même pas loin. Nous voudrions bien doubler nos places, mais nous n'avons pas encore le financement pour ça. Oui, les préjugés envers les Autochtones se sont frayés un chemin jusque dans les facultés de médecine, mais ils tombent rapidement, assure la docteure Hatcher. Les étudiants s'intègrent bien, ils se disent bien accueillis. C'est souvent de l'ignorance. Ce sont les mêmes préjugés qui ressortent. Ils sont des privilégiés du gouvernement du Canada, qu'ils ont eu un ticket spécial pour entrer en médecine et qu'ils ont pris la place de quelqu'un d'autre. Je répète, ils ont les prérequis et ils ont leur place en médecine. Au final, les étudiants autochtones apportent beaucoup à leurs compagnons de classe, mais aussi au personnel du milieu de la santé. Ils servent souvent de moteur d'éducation. Il y a des situations où ils ont dû se lever en classe pour corriger ce qu'un professeur dit. Ils peuvent aider en stage à corriger des stéréotypes chez le personnel soignant. À Chicoutimi, par exemple, il y a plusieurs patients autochtones qui sont hospitalisés. Le personnel est allé vers une étudiante autochtone pour lui demander des conseils sur comment approcher les patients. Et une nouveauté cette année, la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke a suivi les pas des facultés de médecine et offre une nouvelle catégorie d'accès facilitant l'admission d'étudiants autochtones. On a fait le constat que peu d'étudiants en droit sont autochtones. C'est difficile pour eux d'arriver au niveau universitaire. Ils font face à des défis significatifs dans le système éducatif. On a décidé que ce serait dans notre mission de donner l'opportunité de donner à des personnes désavantagées dans la société d'avoir accès aux études en droit. Pour les Autochtones, le fait d'avoir des juristes dans leur communauté est un outil nécessaires pour continuer leur processus d'autodétermination où ils peuvent prendre eux-mêmes les décisions pour leur communauté. La candidature des étudiants n'est pas évaluée en fonction des résultats académiques, cette fois-ci. On évalue le dossier sur son ensemble, on évalue la motivation et la possibilité de réussite. Ils doivent avoir complété le cégep. Une fois admis, ils auront droit à toute une série de mesures d'accompagnement pour qu'ils réussissent leurs études. On est très à l'écoute de ces réalités. On a été voir les meilleures pratiques dans d'autres universités canadiennes qui travaillent avec des étudiants autochtones. C'est Sébastien Lebel-Grenier qui nous le dit, il est doyen de la faculté de droit à l'Université de Sherbrooke. Pour cette année, aucun Autochtone n'a réussi à franchir le processus de sélection. C'est nouveau, ce n'est pas connu encore. Cette année, nous voulons publiciter le programme pour avoir plus de candidats et nous aimerions avoir une dizaine d'étudiants. L'ex-député d'Abitibi-Est pour le Parti québécois, Alexis Wawanolawat, entame sa deuxième année en droit à l'Université de Sherbrooke. Même s'il n'est pas passé par cette nouvelle catégorie d'accès, il est d'avis que l'avancement des sociétés autochtones passe par la formation de juristes. C'est une bonne chose. Beaucoup des avancées des droits de la cause des Premières Nations passent par le droit. Avec un bac en droit, c'est toujours utile pour défendre la cause, les causes territoriales, entre autres. Hein. On l'a vu dernièrement, il y a eu beaucoup, beaucoup de procès impliquant des combats là, des Autochtones pour, par exemple, empêcher des pipelines ou des projets d'hydroélectricité. Alors, selon M. Wawanolawat, ces programmes de discrimination positive permettent de donner une chance aux Autochtones dans leur parcours scolaire. On a tellement de prises contre nous dans les communautés par rapport à la langue, par rapport à un milieu éducatif qui n'est pas tout le temps adéquat. On dit que les enfants autochtones reçoivent 70 % de ce que les enfants non autochtones reçoivent en éducation. Pour permettre à des jeunes d'aller au-delà de ça, c'est important, ce programme. Et je termine par une citation du même M. Wawanolawat. Ce n'est pas la mer à boire. On parle de 4 ou 5 étudiants autochtones sur une cohorte de 300 étudiants. On peut bien avoir une petite place pour nous. Daniel.
Oui, un article que j'ai trouvé dans une revue qui s'appelle Le Monde de l'intelligence. Je vais vous demander qu'est-ce que je faisais là.
C'est là que vous allez nous parler d'amusie, c'est
oui,
ça?
Oui, oui, oui. C'est un peu par hasard, je me suis retrouvé là finalement. Le titre de l'article, c'est Le cerveau musical en mode extrême, amusie et oreille absolue. Certaines personnes parviennent à identifier n'importe quelle note avec justesse. D'autres, au contraire, sont incapables de faire la différence entre deux mélodies. Grâce à de récentes études, on commence à mieux comprendre comment leur cerveau traite la musique. Ah. Décryptage de la partition cérébrale d'un extrême à l'autre. Nous sommes tous plus ou moins sensibles à la musique. Peut-être êtes-vous capable de reproduire à l'oreille n'importe quelle chanson avec une extrême précision. Ou au contraire, la musique vous paraît aussi mystérieuse qu'une langue étrangère. Si vous avez des difficultés à reconnaître une mélodie familière sans paroles, à détecter une fausse note ou quelqu'un qui chante faux, il se pourrait que vous soyez atteint d'amusie congénitale.
Mmh. Et donc, ça serait comme l'inverse de l'oreille absolue, finalement.
Voilà, voilà. C'est fini. Mmh. Pas besoin de continuer. Non, mais il reste que, bon...
On ne sait pas tous c'est quoi l'oreille absolue non plus. C'est alors, ça, reste très intéressant.
Donc, pas de panique. Il s'agit d'un déficit musical, mais il ne résulte pas d'une lésion cérébrale, pas plus qu'une perte auditive, d'un déficit cognitif, intellectuel ou social, ou encore d'un manque d'exposition à la musique, rassure Barbara Tillman, chercheuse au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Si les premiers travaux sur les bases neuronales de ce déficit musical remontent à une dizaine d'années, les résultats d'une étude publiée en avril dernier permettent de mieux en comprendre les mécanismes. En observant l'activité cérébrale d'amusique, j'imagine, des personnes
souffrant d'amusique.
Je ne sais pas si on peut dire qu'ils souffrent vraiment, je ne pense pas qu'ils souffrent tant
que ça. Oui, c'est leur entourage, des fois, qui souffrent hein, quand ils se mettent
touchés
à chanter.
Oui, peut-être. Donc, en observant l'activité cérébrale d'amusique en train de réaliser une tâche musicale, Barbara Tillman et ses collègues ont découvert qu'ils présentent un traitement altéré du son au niveau du cortex auditif et du cortex frontal, principalement dans l'hémisphère droit. Par rapport aux personnes non à musique, j'aurais dit des personnes normales.
Oui, peut-être.
Non, parce qu'apparemment, j'ai lu dans un autre article que le pourcentage est très, très faible. Le pourcentage de la population qui serait à musique, ça représente peut-être 3 ou 4 %.
Mais j'imagine, parce que la plupart des gens qu'on connaît sont capables de fredonner.
Sont normaux, ben oui.
Bon. Mais on connaît tous quelques à musique, je pense.
Oui, je n'aimerais pas, mais oui, j'en
Bonjour, papa.
Rapport, donc, l'activité cérébrale est retardée et diminuée dans ces aires spécifiques au moment de l'encodage des notes musicales, détaille la chercheuse. Mm. Une différence qui expliquerait pourquoi les personnes souffrant d'amusie ont du mal à déterminer si une note est grave ou aiguë, ou encore à mémoriser des suites de notes. Ça m'a impressionné.
C'est à ce point-là,
la difficulté,
hein, grave
ouais,
ou aiguë.
Il me semble que... on peut voir dans une échelle.
Mais c'est ça qui est formidable avec le cerveau. C'est,
ouais.
C'est tellement compliqué ce
que
le cerveau...
L'interprétation.
Ouais.
Donc, en l'absence de lésions cérébrales, comment expliquer ce décalage? Le cortex auditif et le cortex frontal sont tous deux impliqués dans la perception musicale. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, mm-hmm. met en évidence un excès de matière grise accompagné d'un déficit en matière blanche au niveau du cortex frontal inférieur chez les amusiques.
Vous m'avez un peu perdu, mais...
Ouais, faudrait
en
faire
gros,
un
il manque des affaires,
ça.
Puis il y a trop d'autres affaires.
Ouais, effectivement. Il y a un genre de déséquilibre au niveau des couleurs de la matière dans le cerveau, finalement. De vulgarisation
c'est
un peu...
C'est des plusieurs... C'est quoi ces 50 nuances de gris?
Ouais, de gris et de blanc. Par ailleurs, les chercheurs ont également trouvé des anomalies anatomiques dans le cortex auditif. Conséquence, la communication entre ces deux aires cérébrales serait réduite. Donc, c'est plus une question de communication.
C'est le message
entre
les deux,
effectivement.
Dans le fond,
Pour Barbara Tillman, la musique est liée à un traitement neuronal déficitaire dès les premières étapes du traitement d'un son dans le système nerveux auditif. À l'inverse des amusiques, certains individus sont dotés de l'oreille absolue, comme vous mentionniez tantôt. La capacité à identifier n'importe quelle note musicale sans référence externe et sans effort. Ça m'a toujours impressionné.
Moi aussi, j'ai un ami qui a l'oreille absolue. Là,
ouais. J'ai testé avec certaines personnes que je connais aussi. Puis
c'est comme de la magie.
Effectivement. Puis moi, si tu me donnes un do, je vais pouvoir te nommer. Toutes les autres, tu vas me donner après, c'est correct, parce que j'ai une référence.
Il faut partir de quelque
part. Mais sans référence.
Eux, ils partent de rien.
C'était de la magie pour moi. Donc,
et c'est très pratique dans une chorale pour nous donner la note au début.
Mais en tout cas, je sais pas. Je sais pas jusqu'à quel point ça en fait des musiciens. Mais bon. Par exemple, ils peuvent reconnaître rapidement une note isolée jouée sur un instrument. Mais d'où provient cette compétence hors norme? D'après Stephen Hedger, chercheur à l'Université de Chicago, une expérience musicale précoce, par exemple apprendre le nom des notes, pourrait être nécessaire, mais certainement pas suffisante pour développer l'oreille absolue. Finalement, il n'y a pas plus de réponses que nous autres.
Non, mais quand même, si on veut que nos enfants aient l'oreille absolue, il faut leur apprendre les notes en bas âge.
Ça
ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir, mais ils ont besoin de le faire.
Peut-être que par mémoire, il y en a qui sont capables de fixer dans leur cerveau.
Il y a peut-être quelque chose, c'est ça qui s'enregistre dans le cerveau quand les neurones sont en train de se développer.
Peut-être, mais comme il dit, je pense que ce n'est pas suffisant.
Non.
Si une composante génétique est d'ores et déjà admise, l'environnement auditif aurait également un impact, sur la probabilité de développer cette capacité. En effet, dans les langues à accent tonique, la hauteur des mots est essentielle à la compréhension. En mandarin, par exemple, le mot « ma » signifie à la fois « chanvre, mère, grondée ou cheval, selon la hauteur à laquelle est prononcé le mot. Ça m'a toujours impressionné aussi.
Donc, si on est à musique, on peut pas apprendre le mandarin. C'est le mandarin ou le cantonais, vous disiez?
Mandarin. Ça serait assez difficile.
Ça serait très difficile. On passerait notre temps à commettre des impairs.
Oui, donc on dit ici, pratiquer une langue tonale dès l'enfance apprendrait donc à être attentif aux informations relatives à la tonalité dans le discours et permettrait ainsi de mieux en tenir compte en musique. Comment cette compétence musicale surdéveloppée se traduit-elle sur le plan neurologique? La réponse se situerait dans l'hémisphère droit du cerveau. C'est ce qu'a mis en évidence Peter Schneider dans une étude publiée en janvier dernier. Ce chercheur en neurologie de l'Université de Heidelberg a découvert que le volume de substances grises, encore une fois, dans une région du cerveau appelée gyrus de Helch, est plus important dans l'hémisphère droit chez les personnes dotées de l'oreille parfaite. Pour lui, cette disparité constitue un véritable marqueur anatomique de l'oreille absolue. En plus du HG, où s'effectuent les premiers traitements des informations auditives, d'autres zones cérébrales entrent en action chez les détenteurs d'oreilles absolues. Peter Schneider suggère qu'un réseau constitué du planum temporal, je ne sais pas c'est où, du cortex somatosensoriel secondaire et du cortex prémoteur droit.
En tout cas, c'est tout dans le cerveau, mais à part
oui,
ça,
je suppose.
C'est du côté droit, j'imagine.
Oui. Donc, sert d'intermédiaire à la perception de la musique, tandis que l'identification des notes a lieu au niveau de l'aire de Broca, très bien connu, situé dans l'hémisphère gauche.
Ah, OK. Donc je sais pas ça si va les deux côtés, là.
Je ne sais pas si l'explication vous convient, mais si vous voulez faire le test, j'ai vu, il y a une adresse sur le web, www.brahms.umontréal.ca. /amusia-demo, où on peut trouver un test si on veut voir
si on reconnaît les notes ou
si
non.
On souffre d'amusie, effectivement.
OK. Ah, mais c'est intéressant.
Voilà. Ça vous... J'ai pas fait le test encore. Je pense pas souffrir d'amusie. Ça serait un méchant problème pour moi. Mais par curiosité, je vais aller voir en quoi consiste le test.
On s'en donnera des nouvelles.
Essayer. Je vous en redonne des nouvelles.
Merci, Daniel.
Malgré la grandeur des refrains et malgré l'arme qu'il a à la main, tout ce qui monte redescend, celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, demain je repartirai au combat. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. N'est pas objet qu'il pense qu'à briller, mais plutôt tout geste de vérité. Mais nous donnerons nos armes en offrande à Notre-Dame pour ces quelques pécheurs sans âme, en échange des ornements de nos larmes. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Le cœur aveuglé par l'alcool de sang troublé, par le frère de l'huître scellé, bien droit nous continuerons à marcher. Une fois deux par deux rassemblés, nous partirons le poing levé. Jamais la peur d'être blessé n'empêchera nos cœurs de crier. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver.
Pierre Lapointe et la pièce 2 par 2 rassemblée.
Et Serge, il vous reste très peu de temps, alors parlez vite.
Oui, catalogue d'hier. C'est une exposition qui avait lieu en 2001, parce que c'est tiré de la revue Cap au Diamant 2001, de l'été 2001. C'est une exposition qui a lieu au Musée canadien de la Poste et qui traitait de l'histoire de l'achat par catalogue au Canada de 1884 à 1960. Et évidemment, les catalogues qui ont existé, c'était Eaton, Simpson, Dupuis Frères et d'autres que, dont je vais vous parler dans le... Alors, chaque entrepreneur faisait à sa manière la mise en marché auprès des consommateurs en faisant appel autant à leurs désirs et à leurs fantasmes qu'à leurs besoins quotidiens.
Comme aujourd'hui, finalement.
Oui, oui, oui.
C'était l'Amazon de l'époque.
Absolument, oui, oui. D'ailleurs, les petits garçons, c'était très populaire, la section féminine des soutiens-gorge.
Oui, oui, j'ai apparemment entendu parler de ça.
Oui, oui. La simple mention des catalogues, notamment chez les 50 ans et plus, allume toutes sortes de souvenirs nostalgiques, tellement le discours a porté de fruits et tellement les gens étaient sensibles à ce procédé. Malgré les réminiscences et l'émotion, le phénomène de l'achat par catalogue a gagné à être reconnu pour ce qu'il a vraiment été une business. Timothy Eaton publie le premier catalogue de l'histoire canadienne en 1884. Le concept de la vente par catalogue destiné au grand public existe ailleurs dans le monde depuis déjà une douzaine d'années. En France, le magasin Au Bon Marché en 1871 et aux États-Unis, Montgomery Ward et Macy's aux États-Unis dans les années 72 et 74. Le catalogue voit le jour en même temps que s'étendent de la consommation de masse les grands magasins. Ces derniers qui, selon Rosalind Williams, par le seul déploiement de quantité de biens parfois dans un environnement luxueux, avaient pour mission de séduire l'œil et l'esprit du consommateur. On peut penser récemment à la télévision, voyons, la série, qui se passe en Angleterre.
Downton Abbey?
Non, l'autre, sur les grands magasins.
Selfridge, c'est vrai.
Magnifique série. Le catalogue constitue lui aussi un puissant facteur dans l'avènement de la consommation de masse, surtout pour des millions de ruraux qui habitent loin des grands centres. Aujourd'hui, on fait de la consommation virtuelle avec le commerce électronique, souris à la main, évidemment. Mmh. Autrefois, on tournait les pages d'un vrai livre, 1100 pages dans le cas de Sears.
1100 pages!
En 1902.
Oui. Et ça devait être lourd dans le postier, devait avoir un tour de rein cette semaine-là.
Oui, il doit avoir du plaisir, oui, oui. En plus, après que tout le monde s'en faisait venir,
oui.
Je pense que c'était gratuit. Plus modestement, entre 200 et 250 pages pour Eaton en 1901, avec un crayon et une feuille de commande à portée de la main, on faisait ses achats. On achetait des produits sans même avoir eu l'occasion de les toucher auparavant. Quel terrain fertile pour l'imaginaire humain! Un petit nombre de grands joueurs domine l'industrie du catalogue. Au cours des années 1890, Eaton & Simpson possède des centres de vente par catalogue à Toronto. Plus tard, Eaton ouvre des centres de vente à Winnipeg en 1905, à Moncton. Simpson en fera autant à Regina et Halifax. Eaton et Simpson ne sont pas les seuls. En fait, il y a une foule d'entrepreneurs dans le secteur du catalogue. Il y avait presque autant de catalogues que de grands magasins dans les principales villes du pays, c'est-à-dire Goodwin à Montréal, Paquet et Pété-Légaré à Québec, Cairns à Saskatoon, Ramsay à Edmonton, et certaines compagnies sont plus importantes que d'autres car elles œuvrent à l'échelle régionale. Mentionnons Army and Navy, dont le siège social est à Regina et qui dessert le marché des prairies. À partir de 1897, Woodward's de Vancouver vend des denrées alimentaires, des médicaments et bien sûr, qu'est-ce qui est nécessaire en Colombie-Britannique? Des parapluies.
Des parapluies.
D'autre part, il y a cette compagnie de Montréal, entièrement possédée et administrée par les Canadiens français, connue sous le nom de... tout près d'ici...
Dupuis.
Dupuis Frères, oui. Exactement. Fait remarquable, Dupuis Frères offre le premier catalogue en français en 1921.
Ah, avant, c'était tout en anglais.
Ben oui, dans les mains. Bien que ce soit une mince publication de 32 pages, ce catalogue aura d'importantes conséquences sur l'histoire du marketing au Canada. Il forcera ses concurrents, notamment Eaton et Simpson, à faire paraître leur publication en français.
Ah, voilà.
Ensuite, la vente par catalogue est un business organisé qui engage des centaines de travailleurs. Par exemple, 500 personnes chez Eaton à Toronto pour les commandes par catalogue en 1901.
Mais c'est que oui, il fallait téléphoner, il fallait ouvrir les lettres si c'était
poste. C'était par la poste en ce moment-là.
Parce que oui, il n'y avait pas tout le monde encore qui avait le téléphone, en tout cas si on parle de 1920.
Le travail se fait de façon linéaire à la chaîne, comme dans une usine. Vers 1926, toujours chez Eaton, le travail est réparti en 14 sections qui sont chargées respectivement de la finance, de la correspondance, de la facturation, de l'assemblage, du transport, etc. Et en conclusion, on peut dire que une petite incursion dans le passé aide parfois à comprendre bien des choses.
Merci.
C'est un article de John Wills, musée canadien de la Poste.
Excellent. Plein de choses intéressantes. Ça me rappelle quand on recevait le catalogue Sears, quand j'étais petite, et on regardait les jouets, puis on entourait tout ce qu'on voulait.
Ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils vont faire une
Mais aujourd'hui, le catalogue existe encore, sauf qu'il est par Internet.
Alors, on se retrouve dans quelques minutes pour d'autres informations.
Je suis acheté une robe décolletée en cœur comme Marlène.
C'était Diane Dufresne, bien entendu, avec Hollywood Freak, que tout le monde pense ça s'appelle vraiment si tu me voyais.
Mm-hmm. Ouais, ouais, c'est il faut qu'il y en ait une qui le fasse.
Mm-hmm. Ouais, c'est le titre de l'album.
Et donc, ça veut dire que les chansons de Diane Dufresne sont enfin disponibles en ligne?
Ah, OK, j'aurais pas besoin de...
Non, mais vous, là, vous...
Oui, ben, c'est un article qui est paru la semaine dernière dans la presse, et puis je sais pas pourquoi la semaine dernière, j'en ai pas parlé. Ben bon, là, j'en parle cette semaine. Un article d'Alain de Repentigny qui est paru le 2 octobre, l'offensive numérique de Diane Dufresne. À compter du 2 octobre, l'ensemble de la discographie de Diane Dufresne sera offert sur iTunes et Apple Music. Une première véritable incursion numérique pour la diva qui prépare pour 2018 un nouvel album dont on entendra bientôt le premier extrait. Nicolas Lemieux s'est souvent demandé pourquoi Nicolas Lemieux s'est souvent demandé pourquoi, à l'exception de son dernier album Effusion, paru en 2007, et de quelques compilations et albums enregistrés en spectacle, la discographie considérable de la chanteuse de 73 ans n'était pas offerte sur les plateformes numériques. La raison était fort simple. Diane est très orientée sur l'avenir. Elle ne vit pas dans le passé, c'est ce qui fait sa force, explique le patron du label montréalais GSI, qui a produit le concert Montréal Symphonique au pied du Mont-Royal le 19 août dernier. N'empêche, dans l'univers de la musique numérique en 2017, c'était une absence de taille, sinon une anomalie à laquelle Lemieux a voulu remédier. Non seulement il a convaincu la chanteuse et son associé et mari, Richard Langevin, de lui vendre les droits de 18 albums de Diane Dufresne, y compris la moitié des droits de « Tiens-toi bien, j'arrive », et à part de ça, je me sens bien, dont l'autre moitié appartient à François Cousineau, mais il en a aussi fait rematricer tous les enregistrements. Rematricer, ça veut dire remixer finalement, je pense. On va demander à Jean-Sébastien.
Rematricer, c'est remasteriser.
Remasteriser, ouais, OK. C'est parce que des fois, ça devient confondant. On voit souvent ça. Nouvelle,
oui, on est tellement habitué des termes en anglais. Que... Ouais. Alors, rematricer, intéressant.
La petite parenthèse pour mettre les auditeurs en contexte. Oui. Donc, remixer, c'est refaire la balance entre les différents instruments sur l'album. Rematricer, c'est refaire le mix entre les différentes chansons de l'album. Donc, appliquer un traitement à la chanson au complet et non pas seulement avoir la voix plus forte ou les guitares plus fortes. Donc, un peu plus de compression, peut-être faire que la chanson sonne plus aiguë, plus grave. Donc, c'est vraiment jouer sur la chanson en
elle-même. S'assurer que la chanson elle-même, c'est ça, est assez homogène avec le reste de l'album et qu'il y a un format qui passe bien à la radio aussi, je pense.
Exact. Puis surtout, pour étirer ma parenthèse, avec les pièces qui sont plus anciennes, les arrangements étaient différents. Donc, quand on compare une pièce actuelle... ça va sonner beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, pour faire plaisir aux gens qui consomment la musique de façon numérique, beaucoup d'albums comme ça vont se faire remasteriser.
Oui, accentuer certaines fréquences.
Donc, pour qu'on ne soit pas obligé de monter le son quand on tombe sur une vieille tune dans notre playlist.
Merci, Isabelle.
Merci beaucoup,
les basses et voilà. Donc, dès lundi, toutes ces chansons rafraîchies, dont certaines proviennent d'albums parus uniquement en France, pourront être téléchargées sur iTunes ou écouter en continu sur Apple Music dans toute la francophonie, y compris les chansons de Dioxyde de Carbone et son Rayon Rose, l'opéra cartoon des années 80 signé Luc Plamondon et Angelo Finaldi, ou encore Un jour il viendra mon amour, une chanson de Cousineau et Marcel Lefebvre que Diane Dufresne a interprétée pour le film L'Initiation de Denis Héroux à la fin des années 60. Ah, est-ce que Serge, vous connaissez ça, L'Initiation? Moi,
oui,
jeune un peu.
Ben oui.
Je me souviens du nom, mais j'avais pas le doigt.
Oui, mais je me demande si je l'ai vu, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas le voir. J'étais trop...
Ah, c'est ça. Hein? Ouais.
Je me souviens pas. J'ai vu des parties, là, des bouts.
Ah, c'est quand
donc,
même...
c'était un explosé.
C'est ce qu'il y avait à voir.
Ouais.
Donc, environ 70% du travail de rematrissage effectué par Marc Thériault et Philippe Gosselin du studio montréalais Le Lab Mastering l'a été à partir des bandes d'origine. Pour le reste, il a fallu puiser à d'autres sources, dont les vinyles et les CD, explique Lemieux, qui a parfois joué de chance dans cette opération. Une des bandes de l'album Détournement majeur a été retrouvée dans une garde-robe d'une maison de Saint-Henri, où une famille d'immigrants venait d'emménager. En faisant une recherche sur le web, ils ont découvert que des albums de Diane Dufresne étaient chez GSI et ils nous ont appelés.
Ben voyons, c'est tellement des belles histoires.
Ouais,
ça.
Oui.
Moi, je voulais que le catalogue ait un son qui se tient, poursuit Lemieux. Il fallait donc trouver un équilibre, une espèce de fil rouge entre des enregistrements des années 70 et 90 provenant de fichiers de sources différentes. Pour certains albums, le travail a pris 4 heures, pour d'autres, 3 jours. Parmi cette fournée d'albums de Diane Dufresne, on trouvera également la musique du fameux spectacle Magie Rose qu'elle a donné au Stade Olympique à l'été 1984 et qu'on pouvait jusqu'alors se procurer sur DVD. Nicolas Lemieux aimerait éventuellement concevoir un coffret autour de ce spectacle. Il entend également assurer une présence à Diane Dufresne sur les réseaux sociaux. On vient de commencer tranquillement sur Facebook. On n'est pas pressé. On veut décliner toutes sortes d'images, des pochettes d'albums, des dessins de costumes qui vont raconter l'histoire de chacune de ses chansons. Mais le projet qui lui tient le plus à cœur et dont il est à définir les contours est plus ambitieux. J'ai un super grand projet en tête qui serait présenté ici à Montréal et aussi à Paris. Je me donne 5 ans pour le réaliser. Ça inclurait l'ensemble de la carrière de Diane Dufresne, sa musique, ses photos, ses archives et ses robes. C'est ce qu'ont fait Madonna et Mylène Farmer. Ce qu'ont fait Madonna et Mylène Farmer, Diane le faisait avant elle. Chacune de ses chansons est associée à un moment, un costume, un environnement visuel précis. Entre-temps, Diane Dufresne travaille à un album de nouvelles chansons, son premier depuis 2007, qui devrait paraître au printemps 2018. Elle collabore notamment avec Jean-Philippe Goncalves, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, le musicien et homme à tout faire qui est le directeur musical des spectacles du Cirque du Soleil à Trois-Rivières. Ensemble, ils ont réalisé la chanson « Comme un damné » de l'auteur-compositeur français Cyril Mokayesh, qui devrait être lancé en octobre. Ce n'est pas tout. Le 31 octobre, Diane Dufresne recevra à Paris la médaille de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres des mains de la ministre française de la Culture, qui est...
Hey boy!
Françoise!
Moi, je connais Mélanie Joly, là, mais la France...
Françoise Nyssen ou Nyssen. N-Y-S-E-S-S-E-N. Voilà. Voilà, et je suis allé voir par curiosité hier sur Apple Music, et puis environ... près de 300 chansons qui sont disponibles.
Ah ouais, ben moi je suis allé voir sur plusieurs... Google Play, puis il y a des
versions différentes.
Il
n'y
en a pas beaucoup, mais il y a ses meilleurs succès.
Oui, mais sur Apple Music et iTunes, il y a près de 300. On peut retrouver souvent plusieurs versions de la même chanson, là, mais quand même.
Ben merci beaucoup,
gros
Daniel.
Choix.
On va aller se gâter les oreilles. Et on continue en musique. Comme je le disais, je piétine un peu vos plates-bandes, Daniel, pour vous parler d'Inou Nicamou, de la scène au grand écran. C'est un article que j'ai toujours pris sur ICI, cette fois-ci sur ICI Grand Montréal, publié le 5 octobre 2017 et signé Anne-Marie Yvon. Kevin Bacon-Hervieux n'était pas né. Je pense que c'est pas Kevin Bacon, là. Je pense que c'est vraiment Bacon.
Bacon, oui.
Kevin Bacon-Hervieux n'était pas né quand Inou Nicamou a vu le jour en 1985. Pourtant, lui qui a joint l'équipe de ce festival de musique il y a 5 ans en étonne plusieurs quand il précise que l'événement présentait cette année sa 33e édition. Grand rassemblement musical autochtone, Inou Nicamou a été une tentative de se réapproprier une culture qui a disparu à cause des pensionnats, précise M. Bacon-Hervieux. Le réalisateur avait d'abord intitulé son film Inou Nicamou, la grande tradition, et puis il a choisi de modifier la seconde partie du titre, devenu Chanter la résistance. Il explique ainsi ce changement. De vivre indien, c'est de vivre une vie politique, constamment se défendre, résister, expliquer ou faire comprendre ce que l'on est. C'est important en utilisant... Non, faire comprendre que ce que l'on est, c'est important, en utilisant divers moyens. À Maliutenam, c'est en chanson que la communauté se défend, résiste, explique et poursuit son processus de guérison. Inou Nicamou a choisi de se battre sans armes en utilisant un message pacifique, la chanson. Le site du festival est loin d'être anodin dans ce contexte, puisqu'installé sur les vestiges du pensionnat Notre-Dame, celui-là même qui a arraché plusieurs jeunes Inuits de la Côte-Nord à leur famille entre 1952 et 1970. Un des derniers bâtiments restants, l'ancienne cordonnerie, lieu de plusieurs abus, a été démoli récemment de façon symbolique et dans un ultime acte de guérison. Le documentaire aborde cette sombre page d'histoire avec des témoignages et des images d'archives. Il permet aussi de se plonger dans les diverses éditions du festival grâce aux nombreuses archives visuelles tournées et conservées par un malécite installé à Maliutenam. Le festival rappelle une tradition ancrée chez les Autochtones, surtout les peuples nomades, de se rassembler en été autour d'un feu, d'un festin, au retour de la chasse. C'était un temps de célébration. Mais la tradition a disparu et a même été rendue illégale par la loi, précise Kevin Bacon-Hervieux. Et Nunikamu, c'est une façon de ramener cette tradition-là et de permettre aux Autochtones venus des quatre coins du continent pour l'occasion d'exprimer leur identité à travers la musique. Le rassemblement musical est ouvert à tous, mais attirer la communauté environnante n'a pas été simple, car il a fallu convaincre les gens d'entrer dans la réserve. Pour y arriver, des artistes non autochtones ont été invités à monter sur scène. Louis-Jean Cormier, en 2014, a permis la rencontre et a permis de changer les perceptions. « Je gère la page Facebook du festival », mentionne Kevin. « Je recevais des messages comme « Je m'excuse, j'ai toujours cru qu'Inunikamu était une beuverie. Grâce à la venue de Louis-Jean Cormier, j'ai trouvé le courage de venir et j'ai découvert un événement. Même si j'étais à côté, j'ignorais que c'était de cette beauté-là. Je m'excuse et à demain. » Une beuverie sèche, puisque pas une goutte d'alcool n'est permise sur le site d'Inunikamu. C'est ironique que les gens aient cette perception-là de l'extérieur alors qu'il n'y a pas d'alcool consommé. Alors, Inunikamu, chanter la résistance, bon, était présenté dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. Malheureusement, c'est trop tard au moment où je vous en parle, mais le film sortira en salle dans quelques mois et une version courte sera également diffusée sur les chaînes APTN et Canal D en 2018. Et Serge, avant d'oublier, vous vouliez nous parler de Troyes, nous parler
oui,
de Troyes.
Trois Troyes.
Oui.
C'est parce que dans la, je sais pas, la semaine dernière,
c'est la semaine dernière, semaines,
j'ai parlé de la ville de Troyes. Et moi, j'avais entendu il y a une semaine avant un reportage sur Canal Historia et c'était un militaire anglais de Grande-Bretagne qui avait été en mission en France durant la Deuxième Guerre mondiale et qui parlait de la ville de Troyes.
OK. Ah, moi, et donc, vous avez repris sa prononciation.
Oui, mais effectivement, je suis allé vérifier en arrivant à la maison. Ça m'a vraiment fait sonner une cloche. Et vraiment, on dit, on le prononce comme
Troyes. C'est bien la même Troyes, là. Donc, oui, c'est pas une autre ville.
Non, parce que je vais le voir Troyes, T-R-O-Y-E-S, puis vraiment la prononciation Troyes, comme la ville de Troyes en Grèce.
Alors, c'est noté.
En Turquie, c'est-à-dire. Donc, encore un article du Capot Diamant l'été 2002 de André Escogido. Alors, c'est le magasin général de Lance à Beaufils. Alors, il faut le voir pour le croire. À proximité du havre de Lance à Beaufils, non loin de Percé, un vent de renouveau et de redécouverte patrimoniale a métamorphosé cet admirable port de pêche gaspésien, autrefois gruyant d'activités maritimes. En effet, alors que les activités de pêche ont été mises en veilleuse en raison d'une désastreuse pénurie de poissons dans ces années-là, la vieille usine de transformation des années 1870 s'est, pour sa part, muée en centre culturel et artistique. Dans cette même foulée de revitalisation du patrimoine culturel de cet exceptionnel port de pêche, s'est imposée une autre remarquable réalisation de restauration et de mise en valeur du pittoresque magasin général Robin Jones and Whiteman Limited. C'est ainsi que deux établissements majeurs de ce rameau enchanteur sont magnifiquement retracés dans de nouvelles vocations, réactivés, pardon, dans de nouvelles vocations. La vieille usine de transformation de poissons, tout comme le magasin général historique authentique, respectivement propriété de Charles Boivin, Charles Robin Compagnie, qui était identifié par ses initiales CRC. Je suis allé sur Internet et le magasin est toujours ouvert pour la visite, c'est encore fonctionnel aujourd'hui. En ce qui a trait au magasin, je ne pense pas qu'on puisse s'acheter, par contre.
C'est ce que je me pose comme une question, parce que moi aussi, je n'ai pas pu résister. Je suis allée voir, puis on voit les photos, puis vraiment plein, comme s'il y avait des produits sur les tablettes, mais j'imagine qu'on ne peut pas les acheter, effectivement.
Mais peut-être, il y a peut-être une section qu'on peut...
Peut-être,
produits,
il doit y avoir une petite boutique en sortant.
En ce qui a trait au magasin général historique authentique, on peut dire qu'il porte bien sa nouvelle appellation, car il s'agit d'un magasin de 1928 de la compagnie Robin Jones and Whiteman Limited, qui, depuis la mi-juin 2001, a ouvert ses portes aux visiteurs avides de fréquenter ce lieu de mémoire. C'est par la volonté de Rémi Cloutier et le soutien opiniâtre de sa famille, qui mérite notre gratitude, notre admiration et notre estime, pour le colossal travail accompli, tant pour sa conservation que sa mise en valeur sans artifice, que naît un véritable musée vivant. Lorsqu'on pénètre dans ce magasin général, redevenu pôle d'attraction culturelle et touristique, on s'émerveille de se retrouver comme par enchantement dans un lieu historique authentique, magistralement bien documenté. Un talentueux guide aux accents du terroir gaspésien, il doit toujours être là, qui est à la fois agent d'ambiance, narrateur, chroniqueur et chaleureux animateur, doué d'une verve inimitable, nous accueille et nous livre une impressionnante prestation. Ce musée vivant consacre le cheminement audacieux de 4 générations de cloutiers. Cet héritage répond aujourd'hui encore à des besoins humains, variés de réappropriation communautaire et sociale, d'un milieu extraordinaire de mémoire, de découverte émouvante, des modes de vie qui restent dans le souvenir d'un hameau typiquement gaspésien. La redécouverte évocatrice du décor intérieur, inchangé du magasin général de l'Anse à Beaufils, a une saveur particulière parce qu'on y retrouve, belle énumération qui s'en vient, de l'épicerie, de l'alimentation et des friandises, évidemment des friandises, des marchandises sèches, de la farine, de la moulée et des semences, de la pharmacie, de la lingerie, de la mercerie, de la literie, des vêtements et des accessoires de funérailles, du cuir et de la maroquinerie, des chaussures, des bottes et des gants, de la chapellerie, de la quincaillerie, de la ferronnerie et de l'outillage, de la papeterie, des choses de décoration, de l'ornementation, peinture, des accessoires de repassage, de fumage et de musique. Est-ce qu'on a oublié quelque chose?
Quand on parlait de magasin général, c'était vraiment général.
C'est presque Jean Coutu, finalement.
Absolument, oui.
Est-ce qu'on trouve aussi un ami?
Oui. Et en plus, moi, je me rappelle, mes grands-parents étaient à la campagne dans une ferme près de Mont-Laurier et on trouvait également de la glace l'été.
Oui. Ah, ben oui.
Ouais, la glace était... Il allait la chercher l'hiver sur les lacs et il l'entreposait dans du brin de scie. Et en plein mois de juillet, t'avais un bloc de glace. Ouais. Alors, les nombreux et variés produits exposés dans ce magasin, je vais tourner ma page, excusez-moi, sont pour la mémoire des puits inédits de souvenirs. Dans la partie arrière du magasin est situé l'office, qui raconte par son équipement de bureau d'origine et par ses vieux livres de comptes et autres documents de Le Robin, qui remontent aux années 1884 à 1950, la diversité comme l'ampleur des transactions et des opérations commerciales qui prévalaient en Gaspésie. À côté, le musée dédié à feu M. Gaston Cloutier retrace l'histoire occupationnelle de ce marchand général exceptionnel dont la famille est présente à l'Anse à Beaufils depuis 1820. Ce grand visionnaire est passionné de chevaux et passionné de chevaux exerça de nombreux métiers. Il fut successivement pêcheur, bûcheron, draveur en Ontario et barbier, ainsi qu'en témoignent sur place ses principaux outils de travail. Avec son confortable fauteuil de coiffeur, le salon de barbier, ainsi reconstitué, évoque le lieu inédit des soins capillaires et aussi celui des conversations inépuisables du plus haut intérêt. Et comme le perron de l'église dans ces années-là.
Eh oui.
À la visite guidée et commentée proprement dite des lieux s'ajoute le visionnement sur place d'une vidéocassette. Évidemment, maintenant, c'est rendu un DVD si c'est pas sur Internet. Qui fait apprécier les récits, les légendes et les langages du terroir, de vieux conteurs, la chaleur humaine que dégagent les rencontres entre pêcheurs qui se réunissaient dans le tout premier magasin de M. Feu Cloutier, les paysages aux vastes horizons de terre, de mer, de montagne, de ciel, du beau et grand pays, quelle Gaspésie. S'il est vrai que l'Anse à Beaufils n'est plus l'havre de pêche qu'il était autrefois, il n'en est pas moins vrai qu'avec ce nouveau site d'attraction que constitue le magasin général historique authentique, sont conservés et sauvegardés son âme et son ineffaçable histoire. Et si on en juge par les nombreux commentaires et élogieux consignés dans le livre, qu'on retrouve d'ailleurs sur Internet, de signature des visiteurs, on constate que ce merveilleux magasin général de 1928 possède comme tel une aura affective attestée par la place qu'il occupe encore aujourd'hui dans la vie des nombreuses personnes qui sont venues s'y retrouver en famille lors de sa réouverture. Ce magasin général a été placé au service d'une communauté conviviale pendant de nombreuses années et son décor intérieur familier n'a pas changé véritablement de signification pour la plupart des Gaspésiens âgés qui réalisent avec nostalgie qu'il est devenu en 2001 objet de musée et objet de collection. Belle visite si vous allez dans ce coin-là.
Ben oui, ça donne vraiment le goût d'y aller. Oui. L'Anse à Beaufils, donc ça c'est en Gaspésie.
En Gaspésie, c'est ça? Près de, qu'est-ce qu'on dit au début?
De Percé, je pense.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Non loin de Percé.
Bon, ben merci beaucoup, Serge.
Plaisir.
Alors, je voulais vous parler absolument de cet article. Ça m'a vraiment découragée. Un cahier d'exercices pour enfants dénaturant l'histoire des Autochtones. J'ai trouvé ça sur le site de Radio-Canada, ici Toronto. C'était publié le 3 octobre. Alors, une maison d'édition de l'Ontario révisera l'un de ses livres parascolaires après que la chaîne Indigo et d'autres librairies l'eurent retiré de leur tablette parce que le volume représentait faussement l'histoire des Premières Nations. Mmh. On est en 2017, puis on fait encore des bêtises comme ça. Et c'est un euphémisme, le mot bêtise. Dans le cahier d'exercice de la série Complete Canadian Curriculum pour les élèves de troisième année, on peut lire notamment, je cite, « Lorsque les premiers colons européens sont arrivés, ils avaient besoin de terres où vivre. Les Premières Nations ont accepté de déménager ailleurs pour leur faire de la place. »
Ah oui, j'ai dit. Oui. Oh, oui.
Et une autre citation, encore pire selon moi, « Les Premières Nations ont emménagé dans des réserves où elles pouvaient vivre sans être dérangées par le tohu-bohu des colons.
Oh. »
Et là, en tout cas, j'imagine les parents qui ont...
Seigneur.
Bref, les Autochtones qui lisent ça, là, c'est... C'est très décevant pour les Premières Nations qui connaissent la vérité. Et dire qu'on enseigne ça aux enfants, c'est Stacey Jones, justement, une mère autochtone qui le dit. Indigo a refusé le livre en attendant que des corrections appropriées soient apportées. Bravo, Indigo. De son côté, la maison d'édition Popular Book Company admet sur sa page Facebook que la description de l'interaction entre les Premières Nations et les colons européens a besoin d'être révisée. Alors, ces changements doivent être faits dans la réédition du cahier d'exercice, ajoute l'entreprise de Richmond Hill.
Mais si vous avez, dans les aux nouvelles ou dans les journaux, on a parlé d'un monument à Ottawa pour la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas, et il n'y a aucune mention du sacrifice des Juifs. Alors, ils vont retravailler le monument, vont réinscrire. Mm-hmm. C'est un monument, je ne me souviens pas sur quoi exactement. Là,
c'est ça, on fait encore des erreurs. Ben, oui. Mais là, en tout cas, un livre d'histoire. Alors, voilà. Et Serge, vous avez un petit quelque chose encore sur les catalogues?
Oui, regardez la petite image que malheureusement les gens à la maison ne peuvent pas voir, mais ça fait penser à Norman
c'est
Rockwell.
C'est la petite famille, là, la maman sur le divan avec le papa
style,
tout bien mis,
Norman
la petite
Rockwell.
Fille qui est en train de lire un livre.
Et je vous lis, c'était la couverture du catalogue Eaton, automne-hiver 1930-31. Je trouve ça savoureux. Le père est assis sur le coin, c'est un fauteuil, le père est assis sur le bras du fauteuil, il surplombe la famille.
Oui, oui.
La mère est assise avec la petite fille près d'elle et le petit garçon est évidemment debout à côté du père. Alors, c'est le texte. « Papa surveille de loin, pipe à la main, sourire aux lèvres. » Bon. « Le fils et la fille pointent du doigt les objets qui les intéressent. Maman, heureuse elle aussi, est au cœur de l'action. C'est elle qui tourne les pages du catalogue. Quelle conclusion, quelle belle vie.
Oh là là. Et puis on regarde une image comme ça, puis on se dit, ça n'existe pas, un moment comme ça où tout le monde est bien mis. Les enfants, ils n'ont pas une tache sur leurs vêtements. Tout est repassé de frais.
Ça fait penser à l'émission Papa Raison.
Papa Raison, c'est exactement ce qui m'est venu en tête. Oui.
Tout le monde était souriant.
Quelques petites citations célèbres, Serge?
Oui, Alphonse Allais. « Oh, l'éternel féminin », comme disait le monsieur dont la femme n'en finissait pas de mourir. Henri Barbusse. Qui est monsieur Henri Barbusse? « Combien de crimes dont ils ont fait des vertus en les appelant nationales? »
Ah oui, ça c'est moins drôle.
Charles Baudelaire. « Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables.
» Alors, c'est ce qui met fin, ces paroles sages de Baudelaire, à cette émission du 11 octobre 2017 des Voix de Service Magazine. Merci beaucoup à Jean-Sébastien, à la technique et aux informations précises sur la remasterisation. Voilà. Merci, Daniel Lachance. Merci, Serge Bradet. Et moi-même, Isabelle Falardeau. On vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.